Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons toujours l'enquête sur les quatre, écrit par Agatha Christie. Le dernier épisode du livre « Les quatre » s'est terminé par une visite étrange, un personnage venu tenter d'intimider et de corrompre Hercule Poirot. Celui-ci ne se laisse pas avoir. L'homme s'est échappé en projetant contre le mur Hastings qui tentait de le retenir. Et personne pourtant dans l'hôtel ne l'a vu sortir. Après son départ, la seule trace de son passage, une feuille de papier griffonnée au crayon, signalant la réunion du conseil à 11h, 34 rue de l'Échelle, avec pour signature le chiffre 4. Reprenons notre lecture. Et là, c'est Hercule Poirot qui parle. Le piège était tendu. Une réunion rue de l'Échelle à 11h, jamais de la vie. On ne prend pas Hercule Poirot aussi facilement que cela. Et mon illustre ami ajouta en fronçant le sourcil, « Il y a encore une chose que je ne comprends pas. Laquelle ? L'heure. L'heure, Hastings. Si j'avais l'intention de m'attirer, la nuit aurait certainement été bien préférable. Pourquoi à 11h ? Un événement serait-il sur le point de se produire ce matin ? Un événement qu'ils aimeraient me cacher ? Poirot secoua la tête et poursuivit. « Nous verrons. Je resterai ici, mon ami. Ne sortons pas, attendons les événements. » À 11h30 exactement, une convocation arriva sous la forme d'un petit bleu. Poirot l'ouvrit et me le fit lire. Il était de Madame Olivier, la célèbre savante que nous avions eu l'honneur de voir la veille pour lui parler. De Monsieur Hallyday, elle nous priait de passer immédiatement chez elle. Nous allons sur le champ à Passy et Madame Olivier nous reçut dans le même petit salon. Je fus frappée de nouveau par l'intelligence extraordinaire qui émanait de cette femme au long visage de nonne, aux yeux ardents, éminente disciple des Becquerel et des Curie. Elle aborda le sujet de front. « Messieurs, vous m'avez interrogé hier au sujet de la disparition de Monsieur Hallyday. J'apprends maintenant que vous êtes revenu ici une seconde fois et que vous avez demandé à voir ma secrétaire, Inès Véronneau. Elle est partie avec vous et elle n'est pas revenue depuis. Est-ce tout, madame ? Non, monsieur, ce n'est pas tout. La nuit dernière, on a pénétré par effraction dans mon laboratoire. De nombreux papiers ont été volés. Les voleurs ont tenté d'emporter quelque chose de plus précieux encore, mais heureusement, ils n'ont pu ouvrir le grand coffre-fort. Madame, voici les faits. Votre ancienne secrétaire, Madame Véronneau, était en réalité la comtesse Rossakoff, experte en vol. Elle avait pris part à l'enlèvement de Monsieur Hallyday. Depuis combien de temps était-elle avec vous ?
5 mois, monsieur. Ce que vous me dites me stupéfie.
La chose n'en est pas moins vraie. Les papiers volés étaient-ils faciles à trouver ? Ou bien, au contraire, pensez-vous qu'une parfaite connaissance des lieux était nécessaire ? Il est évidemment curieux que les voleurs aient su où chercher. Pensez-vous qu'Inès a fourni des indications aux voleurs ? Mais j'en suis certain. Mais quel est cet objet précieux qu'ils n'ont pu emporter ? Un bijou ? Madame Olivier fit un signe négatif. Quelque chose de plus précieux. Elle regarda autour d'elle, puis se pencha vers nous et chuchota. « Du radium !
Du radium ?
Oui, monsieur, je possède en propre une certaine quantité de radium
et on m'en a prêté encore pour me permettre de continuer mes recherches. Pour infime que soit la quantité dont je dispose, elle représente une certaine partie du stock mondial et une valeur de plusieurs millions de francs. Où est le radium ? Dans son écrin de plomb, au fond du grand coffre. Ce dernier, extérieurement, est un vieux modèle, mais en réalité, il est pourvu de tous les perfectionnements modernes. Une merveille de sécurité. C'est pourquoi les voleurs n'ont pu l'ouvrir. Combien de temps conservez-vous ce radium ?
Encore 2 jours, monsieur Poirot. Après quoi, mes expériences seront terminées.
Le regard de Poirot s'anima.
Inès Vérono était-elle au courant ?
Oui. Dans ce cas, nos amis vont revenir. Surtout, ne parlez de moi à personne et soyez assurés que je sauverai votre radium. Avez-vous une clé de la porte du laboratoire qui donne dans le jardin ?
La voici. J'en ai une deuxième pour moi. Voilà également la clé de la porte du jardin donnant sur l'allée qui sépare ma maison de celle d'en face.
Je vous remercie, madame. Couchez-vous ce soir comme d'habitude, ne craignez rien et laissez-moi faire. Surtout, pas un mot à qui que ce soit, même pas à vos 2 aides, mademoiselle Claude et monsieur Henri. Je crois à eux moins qu'à quiconque.
Poirot quitta la ville en se frottant les mains de satisfaction.
« Qu'allons-nous faire maintenant ? » demandai-je.
« Eh bien, nous allons quitter Paris pour l'Angleterre.
Comment ? »
« Nous allons emballer nos affaires, déjeuner et nous faire conduire à la gare du Nord. »«
Mais le radium ! » !»«
J'ai dit que nous allons partir pour l'Angleterre. Je n'ai pas dit que nous y arriverions. »
« Réfléchissez un moment, Hastings. Nous sommes certainement surveillés et il faut que nos adversaires nous croient partis. Pour qu'ils aient cette certitude, nous devons prendre le train. »«
Voulez-vous dire que nous allons de nouveau nous esquiver à la dernière minute ?»«
Non, Hastings. Nos ennemis ne seront satisfaits que si nous leur offrons un véritable départ. »
« Mais le train ne s'arrête pas avant Calais. »«
Il s'arrêtera si nous payons. »«
Voyons, Poirot, vous ne prétendez tout de même pas arrêter l'express, même en payant. »«
Mon cher ami, n'avez-vous jamais remarqué la petite poignée dénommée « signal d'alarme » dont l'usage non motivé coûte quelque chose comme 100 francs ?»«
Vous allez faire cela ?»
Pas moi, un de mes amis, Pierre Combeau. Pendant qu'il discutera avec le chef de train et que tous les voyageurs se regrouperont autour d'eux, nous en profiterons pour disparaître.
Le plan de Poirot fut suivi à la lettre. Pierre Combeau, un vieux compère de Poirot dont il connaissait parfaitement les méthodes, accepta notre combinaison. Le signal d'alarme fut tiré au moment où nous arrivions dans la banlieue. Combeau organisa une mise en scène impressionnante pendant que Poirot et moi quittions le train sans être remarqués. Notre premier soin fut de nous déguiser le mieux possible. Nous avions emporté des effets dans une petite valise. Bientôt, Poirot et Hastings devinrent 2 rôdeurs en côte bleue qui dînèrent dans une obscure auberge. Il était près de 11 heures lorsque nous nous retrouvâmes devant l'hôtel de Madame Olivier. Après avoir bien regardé de tous côtés, nous nous glissâmes dans l'allée qui paraissait déserte. Nous étions sûrs de n'être pas suivis.
« Je ne les attends pas encore, » me chuchota Poirot. Peut-être ne viendront-ils que demain soir, mais ils savent parfaitement que le radium n'est encore là que pour 2 nuits.
Nous ouvrîmes la porte du jardin avec le plus grand soin et entrâmes sans le moindre bruit.
C'est alors que se produisit le coup de théâtre. En une minute, nous fûmes cernés, bâillonnés et ligotés.
Maintenant, il vous faut une allumette. Dit-elle en se relevant.
Ce n'est pas nécessaire, madame.
Ce n'est pas nécessaire. Quelque chose dans la voix de Poirot me fit triste tressaillir.
Madame Olivier parut également surprise.
Ne bougez pas, je vous en prie, madame.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Si vous ne m'obéissez pas, vous le regretterez, madame. Connaissez-vous les propriétés du curare? Cette cigarette en est remplie. Connaissez-vous cela? Les Indiens de l'Amérique du Sud l'emploient pour empoisonner leurs flèches et occasionner une mort instantanée. Certaines tribus se servent d'un petit tube dans lequel on souffle pour en faire un vaporisateur. J'ai une cigarette qui remplit le même office. Je n'ai qu'à souffler. Ah, vous sursautez? Ne bougez pas, madame. Le mécanisme de cette cigarette est extrêmement ingénieux. On souffle doucement et une flèche minuscule vole vers le but assigné. Voulez-vous mourir, madame? Non? Eh bien, dans ce cas, délivrez mon ami Hastings de ses liens. Certes, j'ai les membres immobilisés. Mais je puis tourner la tête, j'ai donc toujours la possibilité de vous atteindre, madame. Ne l'oubliez pas. Les mains tremblantes, le visage convulsé par la colère et la haine, madame Olivier se baissa et exécuta l'ordre de Poirot. J'étais libre. Poirot me donna des directives. Vos cordes vont pouvoir servir pour madame Hastings. Lavez-vous solidement attachée. Alors, venez me libérer. Quel bonheur que madame ait renvoyé ses pages. Puissions-nous avoir assez de chance pour ne pas trouver notre retraite coupée? Avant de partir, Poirot courtoisement s'inclina. On ne tue pas Hercule Poirot aussi facilement, madame. Bonne nuit. Le bâillon empêchait madame Olivier de répondre. Mais l'éclat meurtrier de ses yeux m'épouvanta. Je souhaitais de tout mon cœur ne jamais retomber entre ses mains. Heureusement, nous ne rencontrâmes personne. Le jardin était désert. Bientôt, nous nous retrouvâmes dans les rues de Paris. Seulement, Hercule Poirot, les poings serrés, donna libre cours à sa colère. « Je mérite tout ce que cette femme m'a dit. Je suis un triste imbécile, un idiot, un petit garçon, un détective de vaudeville. Moi qui étais si fière de ne pas tomber dans le piège. Elle m'a eu, cette femme démoniaque. Elle a roulé Poirot. Vera Roussakoff n'était pas son lieutenant. Madame Olivier avait besoin des idées de Hallyday. Il subsistait des lacunes. Elle avait elle-même le génie nécessaire pour y suppléer. Oui, Hastings, nous savons maintenant qui est le numéro 3. C'est la femme la plus intelligente, la plus érudite, la plus célèbre du monde entier. Vous rendez-vous compte maintenant de la puissance des quatre? Tout le cerveau de l'Orient, toute la science de l'Occident, toute la richesse de l'Amérique. Et il nous reste encore le numéro 4 à identifier. Demain matin, Hastings, nous retournerons à Londres et nous nous mettrons au travail. N'allez-vous pas dénoncer madame Olivier à la police? On ne me croirait pas. Cette femme ici est vénérée comme une idole. D'ailleurs, nous n'avons aucune preuve. Au contraire, nous pourrons nous estimer heureux si elle ne nous dénonce pas elle-même à la justice. Et comment? Mais certainement, réfléchissez un peu. On nous trouve la nuit dans sa villa, porteur de clés qu'elle jurera ne nous avoir jamais données. Elle nous surprend devant son coffre-fort, nous la ligotons, nous la bâillonnons et nous nous sauvons. Ne vous faites pas d'illusions, Hastings, nous serions en mauvaise posture. Quittons Paris demain à la première heure. Chapitre 8. Dans la maison de l'ennemi. À Londres, de nombreuses lettres attendaient le retour de Poirot. Il en lut une avec un sourire bizarre et il me la tendit. « Lisez donc, mon ami !» Je regardai d'abord la signature. « Abbé Highland. » Je ne me rappelais tout d'un coup plus le mot, mais
Hercule Poirot avait dit « l'homme le plus riche du monde ». La lettre de M. Ryland était brève et incisive. Il se disait profondément mécontent des prétextes que Poirot avait invoqués pour refuser au dernier moment sa proposition généreuse et renoncer au voyage en Amérique du Sud. Ça donne à réfléchir, hein, Hastings ?
Dame, il est tout naturel que ce brave homme soit furieux.
Vous ne me comprenez pas, Hastings. Pas plus que d'habitude. Voyons, souvenez-vous des mots de Mayerling, l'homme qui s'était réfugié ici pour y mourir de la main de ses ennemis, le numéro 2 est représenté par un S barré d'un double trait, le signe du dollar, ou bien par deux barres et une étoile. Déduction, il est américain et il représente le pouvoir de l'argent. Ajoutez à cela que Ryland m'a offert une somme formidable pour me faire quitter l'Angleterre au moment où l'on était sur le point de me consulter sur l'affaire des quatre. Comprenez-vous maintenant, Hastings ? Voulez-vous dire que vous soupçonnez Abbé Ryland, le multimillionnaire, d'être le numéro 2 du grand quatuor ? Votre brillante intelligence a saisi, Hastings. Oui, c'est bien là ce que je pense. Le ton sur lequel vous avez prononcé le mot « multimillionnaire » est éloquent. Mais auriez-vous cru, il y a 3 jours, à la culpabilité de Madame Olivier ? Croyez-le, mon ami, cette organisation est dirigée par des personnalités remarquables. Et M. Ryland est loin d'avoir une réputation de philanthrope. Il n'y a pas d'homme plus impitoyable en affaires. De l'argent, de l'ambition, pas de scrupules, bref, un requin de grande classe. Mais enfin, Poirot, comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Où sont vos preuves ? Avez-vous une certitude ?
Je donnerais n'importe quoi pour l'avoir. En attendant, permettez-moi, à titre d'hypothèse, de considérer Abbé Ryland comme le numéro 2 et nous approcherons du but.
D'après sa lettre, Ryland vient justement d'arriver à Londres. Irez-vous le voir et lui présenter vos excuses ?
Peut-être.
2 jours plus tard, Poirot revenait dans un état d'excitation extrême et me saisissant les deux mains en impulsif qu'il était. « Mon cher, une occasion prodigieuse s'offre à nous, une chance sans précédent et qui ne se retrouvera jamais. » Il y a du danger, un très grand danger. Je n'ose même pas vous demander de le courir. Je haussai les épaules. Si Poirot croyait m'intimider, il faisait fausse route. Maîtrisant son émotion, le maître m'exposa son plan. Abbé Ryland cherchait un secrétaire anglais cultivé et ayant de bonnes manières. Et Poirot pensait que je pouvais briguer cet emploi. « Je le ferai volontiers moi-même, m'expliqua-t-il pour se justifier, mais il m'est presque impossible de me déguiser comme il le faudrait. Certes, je parle très bien l'anglais, sauf lorsque je suis agitée, mais mon accent attirerait quand même l'attention. Et même si je faisais le sacrifice de ma moustache, on me reconnaîtrait. » C'était également mon avis. Et je me déclarais tout disposé à jouer le rôle de secrétaire pour pénétrer de cette façon dans l'intimité de Ryland. Je parie 2 contre 1 qu'il ne me prendra pas comme secrétaire, observai-je. Je suis sûre du contraire. Je vais vous faire délivrer 2 tels certificats qu'il s'empourléchera les babines. Vous serez recommandé par le ministre de l'Intérieur en personne. J'ai eu à m'occuper pour lui d'une petite affaire qui aurait pu provoquer un grand scandale. Je l'ai réglée avec discrétion et délicatesse et le ministre est resté mon ami. Nous commençâmes à recourir au service d'un expert en maquillage et en travestie. Ce petit bonhomme qui avait une curieuse ressemblance avec mon ami Poirot m'observa longuement, sans mot dire, puis se mit au travail. Lorsqu'une heure plus tard, je me regardais dans la glace, je restais stupéfait. je ne me reconnaissais plus. Des chaussures spéciales me grandissaient d'au moins 5 cm et le manteau dont j'étais affublée me faisait paraître efflanqué. Mes sourcils, habilement modifiés, me donnaient une toute autre expression. J'avais les joues garnies intérieurement de tampons d'ouate et mon hâle était remplacé par un teint blafard. Enfin, pour couronner le tout, ma moustache était rasée et une dent en or s'accusait d'un côté de ma bouche lorsque je parlais. « Désormais, me dit Poirot, vous appelez Arthur Neville. Que Dieu vous protège, mon ami. Vous aurez peut-être des dangers à courir. » Le cœur battant, je me présentai au Savoie à l'heure fixée par M. Ryland. Deux minutes d'attente, on me fit monter dans son appartement. Ryland était assis à une table. Dépliée devant lui, je vis la lettre du ministre de l'Intérieur. C'était la première fois que je voyais le millionnaire et malgré moi, j'étais impressionnée. Grand, élancé, le menton saillant, le nez légèrement crochu, la chevelure grisonnante, Ryland avait les yeux gris et froids qui brillaient sous des sourcils arqués. Il fumait un long cigare logé dans le coin de sa bouche. Jamais, comme je devais l'apprendre par la suite, on ne voyait Ryland sans cet attribut. « Asseyez-vous, » grogna-t-il. Je m'assis. Il désigna la lettre qu'il avait devant lui. « Si j'en crois le ministre, vous êtes parfait et je n'ai pas besoin de chercher davantage. Mais êtes-vous réellement au courant des usages du monde ?» Je répondis que je pensais pouvoir lui donner satisfaction sous ce rapport. « Si je reçois des ducs, des comtes, des vicomtes et autres personnalités de ce genre dans ma propriété de campagne, saurez-vous les accueillir convenablement et leur assigner à table la place qu'ils doivent occuper ?»« Sans aucun doute, » dis-je en souriant. Encore un coup d'œil dans la fameuse lettre du ministre et je fus agréé. Ce que recherchait M. Ryland, c'était un Anglais versé dans les coutumes du grand monde. Il lui fallait un secrétaire mondain à côté de son secrétaire privé, de sa sténographe, etc., etc. Deux jours plus tard, je partis pour Hatton Chase, le château du duc de Lomire, que le millionnaire avait loué pour 6 mois. Mes fonctions ne me donnèrent aucune peine. J'avais été déjà à un certain moment secrétaire particulier d'un membre du Parlement. Je n'assumais donc pas de fonction au-dessus de mes compétences. M. Ryland recevait beaucoup d'invités pour le week-end, mais le reste de la semaine était relativement calme. Je ne voyais que rarement M. Appleby, le secrétaire américain, mais il me paraissait assez sympathique, le type du jeune businessman américain. Je parlais plus souvent avec Mademoiselle Martine, la sténographe, jeune femme jolie et correcte, aux cheveux châtains, aux yeux noirs, le plus souvent baissés, mais où passaient parfois des lueurs méchantes. J'avais l'impression qu'elle nourrissait à l'égard de son patron de la méfiance et de l'antipathie. Mais nous n'étions pas encore assez intimes pour pouvoir en parler. Il va sans dire que j'avais soigneusement étudié tous les membres du personnel. Un valet de pied et une femme de chambre avaient été engagés tout récemment. Le maître d'hôtel, le portier et le chef faisaient partie du personnel du duc et avaient consenti à demeurer avec le nouvel occupant du château. Les bonnes me parurent sans intérêt. Par contre, j'observais de près James, le second valet de pied récemment engagé par le maître d'hôtel. Celui dont je me méfiais le plus était Deves, le valet de chambre de Ryland, que celui-ci avait amené de New York. Il était anglais de naissance et de tenue irréprochable. Cependant, il m'inspirait de vagues soupçons. Depuis 3 semaines que j'étais à Hatton Chase, il ne s'était produit aucun incident. Nous n'avions pas la moindre preuve pour renforcer notre thèse. Aucune trace des 4. Monsieur Ryland était un homme d'un caractère et d'une personnalité remarquables. Et j'étais portée à croire que Poirot s'était trompé en le prenant pour un membre de la terrible organisation. Un soir à dîner, j'entendis Monsieur Ryland citer le nom de mon ami. On m'assure que ce Poirot est extraordinaire, et moi je dis que c'est un lâcheur. Je lui ai proposé une affaire, il a consenti, et au dernier moment, voilà qu'il se dérobe. Je n'y crois pas, moi, à votre Hercule Poirot. À ces moments-là, ma fausse dent et mes tampons d'ouate me gênaient terriblement. Peu après, Ryland se rendit à Londres pour toute la journée, en compagnie d'Appleby. Mademoiselle Martin, après le thé, vint faire un tour avec moi dans le jardin. Elle me parut triste, nerveuse, troublée, et je la regardais avec sympathie, sans oser la questionner. Cette jeune fille me plaisait et j'aurais voulu lui venir en aide. Avec son intuition féminine, elle le sentit. « Savez-vous, monsieur Neville, que j'ai l'intention de quitter mon emploi ?»
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Joli pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Je la regardais et elle poursuivit. Je sais parfaitement qu'au point de vue matériel, la place est très bonne et qu'il est ridicule de la quitter, mais je ne supporterai pas qu'on m'insulte. Si M. Ryland était un vrai gentleman, il ne se conduirait pas de cette façon. S'est-il montré grossier avec vous ? Elle fit un signe affirmatif de la tête. De son naturel, il est très irritable. S'il savait plus ou moins se maîtriser, je pourrais m'y faire. Mais l'autre jour, il est rentré dans une telle colère à propos de rien, d'une peccadille, qu'il m'a épouvantée. Que s'est-il donc passé ? Comme vous le savez, je décachette toujours le courrier de M. Ryland. Je remets certaines lettres à M. Appleby et par le reste, je fais moi-même le nécessaire. En procédant à ce triage, il m'arrive de trouver des enveloppes bleues marquées dans le coin d'un petit 4. Je vous demande pardon, M. Neville ? Vous aviez dit quelque chose ? Je secouai la tête et la priai de poursuivre son récit. En vérité, ce qu'elle venait de dire m'avait arraché une exclamation. Ces lettres marquées d'un petit 4 doivent être remises intactes à M. Ryland, ce à quoi j'ai coutume de me conformer. Or, hier, le courrier était particulièrement important. Et dans ma hâte à le décacheter, j'ouvris par erreur une de ces lettres bleues. Me rendant compte de la faute commise, je portai aussitôt ce pli à M. Ryland et lui expliquai comment l'erreur s'était produite. À mon grand étonnement, il entra dans une colère indescriptible et il m'effraya littéralement. Que pouvait donc bien contenir cette lettre pour le mettre dans un tel état ? Rien de particulier, c'est là le plus curieux de l'affaire. Je l'avais lue avant de m'apercevoir de mon impair, et elle était si courte que le texte est resté gravé dans ma mémoire. Je me demande encore en quoi il était si important. « Vraiment ? Vous vous en souvenez encore ? » murmurai-je d'un ton encourageant. Après un instant de réflexion, Mademoiselle Martine répéta lentement « Monsieur, il est essentiel que vous passiez sur la place, voir la propriété avec carrière. 17 000 livres pour tous paraissent un prix raisonnable. 11% de commission sont excessifs. 4% me semble suffisant. Votre dévoué, Arthur Leversham. » Haussant les épaules, Mademoiselle Martine poursuivit. Il doit s'agir d'une propriété que désire acheter M. Ryland. Mais je persiste à croire qu'un homme qui s'emporte ainsi est un homme dangereux. Que pensez-vous que je doive faire, Monsieur Neville, vous qui avez de l'expérience ? Je la tranquillisai en lui disant que M. Ryland souffrait probablement de l'ennemi de sa race, la dyspepsie, et qu'il ne fallait attacher aucune importance à cette sotte d'humeur. Lorsque nous nous quittâmes, Mademoiselle Martine était complètement calmée. Pour ma part, je ne l'étais pas du tout. Aussitôt seul, je notai et relus le texte de la fameuse lettre. Que pouvait-elle bien signifier en dépit de sa teneur apparemment innocente ? Traitait-elle d'une simple transaction commerciale dont Ryland ne voulait pas divulguer les détails ? L'explication était plausible. Mais alors pourquoi ce petit 4 dans le coin de l'enveloppe ? N'étais-je pas enfin sur la piste du 4 ? Toute la nuit, j'étudiai le texte. Je m'endormis à l'aube, brisée, sans avoir trouvé l'explication. Le lendemain, subitement, la solution m'apparut. Elle était d'ailleurs fort simple. Le chiffre 4 était la clé de l'énigme. En effet, la lecture d'un mot sur 4 donnait à la phrase une signification toute différente. Essentiel, vous voir, carrière, 17, 11, 4. Le chiffre 17 devait correspondre au 17 octobre, c'est-à-dire demain. 11 était l'heure et 4 la signature du numéro 4, le mystérieux destructeur ou le signe convenu d'un des agents de la bande. L'allusion à la carrière, Dieu merci, était claire. À 500 mètres du château, dans la propriété même, il y avait une carrière abandonnée située dans un endroit désert. Elle paraissait tout indiquée pour une rencontre secrète. Un instant, je fus sur le point de me charger seul de l'affaire. C'eût été un tel fleuron à ma couronne. Mais, après mûre réflexion, je changeai d'avis. La responsabilité était trop lourde et je n'avais pas le droit de faire cavalier seul au risque de compromettre nos chances de succès. Pour une fois que nous marquions un progrès sur nos ennemis, il fallait en retirer le maximum. Poirot, il fallait bien me l'avouer, était beaucoup plus habile que moi. Je lui écrivis immédiatement pour lui exposer les faits. Il se rendrait compte lui-même de l'importance de ce rendez-vous. Je lui fis comprendre que j'étais disposée à me charger seule de l'affaire, mais je lui fournissais cependant toutes les indications utiles pour trouver la carrière, au cas où il jugerait préférable d'intervenir personnellement. Le lendemain, j'étais sur des charbons ardents. Il n'y avait aucun invité à la maison et je dus rester toute la soirée avec M. Ryland dans son bureau. Je m'en étais un peu douté. Je savais qu'il me serait impossible d'aller chercher Poirot à la gare. Par contre, j'étais certaine d'être libre avant 11 heures, ce qui ne manqua pas de se produire. À 10h30, M. Ryland regarda la pendule et me déclara que c'était tout pour ce soir. Je ne me le fis pas dire deux fois. Je montai dans ma chambre comme si j'avais eu l'intention de me coucher, mais je redescendis bientôt par un escalier de service et gagnai sans bruit le jardin. Je m'étais affublé d'un pardessus foncé pour mieux me dissimuler. À quelque distance de la maison, je jetai un coup d'œil derrière moi et je vis M. Ryland sortir de son bureau. Il se rendait certainement au rendez-vous. Je pressai le pas de façon à conserver mon avance et j'arrivai à la carrière quelque peu essoufflée.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus dans l'émission Joli pour vous, présenté par Hélène Vignon.
Nous avons vu que M. Hastings a accepté la proposition de devenir, pour un temps, secrétaire de Aber Island, pour tenter de savoir s'il ne serait pas le numéro 2 du grand quatuor, et ceci en accord avec Hercule Poirot lui-même, bien sûr. Notre prochaine lecture nous permettra certainement d'en savoir plus. Mais en attendant, n'oubliez pas, votre émission la préférée, lecture, c'est « Je lis pour vous ». Radio Alliance Plus 103.2 et DAB+, pour l'écoute en direct mardi et mercredi 21h avec rediffusion mardi et mercredi à 6h. Toutes nos émissions sont dans les podcasts sur notre site www.radioallianceplus.fr. À bientôt, chers auditeurs. La suite du livre d'Agatha Christie, Les 4.